Donc, je suis Emmanuelle Sunet, négociatrice pour le réseau Carel, et je travaille au service des ressources électroniques à la BPI. Donc, avant de commencer mon intervention, je voudrais vous rappeler qu'une enquête Carel est actuellement en cours. Elle aura lieu jusqu'au 8 novembre. Et normalement, le mail pour participer à cette enquête vous a été communiqué par mail. Si par hasard, vous n'avez pas reçu le lien pour participer à l'enquête, vous pouvez vous adresser à Frédéric Legrost, qui est ici présente. Frédéric. Donc Frédéric est élève conservatrice à l'ENSIB, et grâce à elle, nous pouvons mener l'enquête Carel. Donc on la remercie. Donc elle pourra reprendre vos coordonnées de façon à vous renvoyer le lien. Alors, je vous remercie du temps que vous pourrez consacrer pour répondre à cette enquête, hein, parce que vos réponses sont précieuses et normalement, les résultats devraient être communiqués, enfin, devraient être publiés en début d'année 2020. Alors, il s'agit ici, je vais vous montrer le petit programme de mon intervention. Donc il s'agit ici de vous présenter les ressources d'auto-formation référencées au catalogue Réseau Carel. Donc ça représente en fait 19 offres sur 80, soit un quart du catalogue. Donc ces ressources, je vous le rappelle, elles ont été soumises à l'évaluation du groupe de travail auto-formation et chaque ressource est soumise au vote du conseil d'administration qui décide de l'inscription ou non de la ressource au catalogue. Donc, bien sûr, vous aussi, vous pouvez recommander le référencement de telle ou telle offre que vous avez découverte. Et donc là, je vous propose en fait de parcourir la rubrique auto-formation du catalogue et on va vraiment mettre en avant juste les traits saillants des offres. Hein, parce que cet après-midi, vous pourrez rencontrer les éditeurs et donc aller plus avant, plus dans les détails. Vous pourrez mieux connaître l'offre dans les détails. Hein. Alors, la question du prix ne sera pas abordée. Est-ce que c'est cher, pas cher? Parce que c'est un petit peu compliqué de l'aborder de façon générique. Et ça pourrait même faire l'objet d'une autre intervention. Donc, on ne va pas rentrer dans ce genre de critères. Alors, cette présentation, en fait, elle vise surtout à susciter des discussions entre nous. Hein. Au cours de cette journée, vraiment, faites part de votre vision du secteur, de vos expériences, bonnes ou mauvaises. C'est vraiment l'objectif des journées d'échange et surtout n'hésitez pas à revenir vers nous tout au long de la journée pour nous faire part de votre expertise parce que ça nourrit vraiment les négociations. Et tout au long de l'année, sur le site Réseau Carel, c'est fait pour ça. Le site Carel est un lieu d'échange, de mutualisation et de partage. Alors, la notion d'auto-formation. Elle a été reprise pour intituler cette catégorie hein, du catalogue. Bon, moi, je ne suis pas une spécialiste du domaine. Hein, vous pourrez en rencontrer au cours de cette journée. Donc, je préfère partir d'une définition très simple. La ressource d'auto-formation permet de se former de façon autonome dans un domaine particulier. Donc, les domaines privilégiés de l'auto-formation. On peut citer, bien sûr, les langues, hein, comme c'était le cas à la BPI. L'espace auto-formation a été initialement un laboratoire de langues. Ensuite, l'informatique et plus largement la culture numérique. Les savoirs de base aussi, c'est-à-dire les matières scolaires adaptées aux adultes, hein, le maths, le français, l'histoire géo. Le permis de conduire aussi, toutes les compétences aussi métiers, hein, donc la formation professionnelle, comme par exemple des modules de formation comme conduire une réunion, gérer un projet. Et là se développent de plus en plus des offres autour du développement personnel et des loisirs. Au-delà de gérer son stress, les plateformes proposent l'apprentissage du yoga, de la couture ou même de la musique. Alors, on peut s'interroger sur les éditeurs d'auto-formation. Donc, en premier lieu, je tenais à souligner que les éditeurs de solutions d'auto-formation ne pensent pas aux bibliothèques. Ils ont d'abord pensé à d'autres clients et en s'interrogeant à savoir qui sont ces clients, cela nous permettra de comprendre comment sont conçues aussi ces offres d'auto-formation. Donc souvent, les fournisseurs de solutions d'e-learning, ils viennent du monde de la formation professionnelle. Ils ont élaboré leur offre pour les centres de formation. et ils viennent aussi du monde scolaire, de l'enseignement en général. Alors, leur public cible, quel est leur public cible? C'est plutôt donc les services formation des entreprises, des institutions, des collectivités. Ce sont aussi les écoles de langue. Et bon, je vais vous prendre un exemple. Par exemple, la ressource Rosetta Stone, elle a véritablement été conçue pour les écoles de langue. Donc, c'est-à-dire que l'apprenant est bien identifié, bien spécifique, il est engagé dans une démarche de formation, il doit suivre un parcours extrêmement balisé, hein, au fur et à mesure de sa progression, il débloque les modules, en fait, il est conduit d'un point A à un point B. Donc, ce type de conception très pédagogique au sens propre, hein, très linéaire, peut s'avérer en fait extrêmement éloigné des usages en bibliothèque. En bibliothèque, comme vous le savez, hein, les usagers ne sont pas forcément clairement identifiés. À BPI, on garantit l'anonymat, par exemple. Les usagers sont souvent dans une démarche de découverte. Hein, ils sont pas dans un engagement ferme et déterminé. Donc, bien souvent, les bibliothécaires demandent aux éditeurs de changer en fait leur plateforme, enfin leur solution, et de débloquer tous les modules de façon à permettre une circulation libre dans la ressource. Donc ça fait partie aussi de la négociation. Donc on a des éditeurs aussi comme Tralalaire, qui est inclus dans l'offre de Tout Apprendre, qui concevait à l'origine des serious games ou des vidéos pour l'éducation nationale. On a aussi, par exemple, des offres comme Speaky Planet ou KidiLang qui ciblent précisément les parents. Hein. Donc, ils ont plutôt une offre parascolaire ou jeux ludo-éducatifs. Alors, les comités d'entreprise aussi sont des clients privilégiés des éditeurs d'e-learning et surtout sur les catalogues loisirs. On peut aussi citer Skileos, bon, qui vise à la fois les CE, mais aussi les particuliers. Ils ont commencé avec une offre de B2C. Donc, voilà. Alors, quelles sont les particularités des offres d'auto-formation? Donc, les solutions d'auto-formation, elles proposent généralement de s'adapter à l'apprenant. Hein, c'est vraiment une spécificité. De faire un parcours personnalisé, sur mesure, un parcours qui découle bien souvent d'un test de positionnement, surtout en langue, hein, ça c'est très vrai en langue. Donc, à l'origine, le formateur ou le professeur utilise le module administrateur pour coacher l'apprenant. Alors, le coaching peut être automatisé par l'envoi régulier de mails. L'apprenant peut même se voir proposer un planning du type « Attention, nous vous conseillons de faire 10 minutes par jour pour progresser en anglais ». L'apprenant peut aussi suivre sa progression grâce à des statistiques sur le temps passé, sur les modules réussis, etc. Donc là, on voit encore que le module administrateur a été conçu pour ce type d'usage et les bibliothèques vont venir aussi demander, en fait, comme le disait Guillaume, demander qu'on adapte en fait le module statistique à nos usages à nous. Donc voilà, voilà, donc parfois, comme ça a été le cas avec Rosetta Stone, les bibliothèques demandent en fait aux éditeurs de remettre en question leur conception en fait de leur solution. Et avec Rosetta Stone, les négociations n'ont pas pu aboutir parce qu'ils n'ont pas voulu justement débloquer la circulation, débloquer les modules, parce que ça remettait trop en question. Donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à aboutir au niveau des négociations avec Rosetta Stone. Donc c'est quand même des points importants, des difficultés très particulières au secteur. Alors, on va commencer par brosser le paysage. Donc, comment ne pas commencer par tout apprendre? Voilà, donc c'est vraiment la particularité du marché. Hein. Il y a la prédominance d'un acteur, Tout Apprendre. Donc, je vous rappelle que c'est un agrégateur de solutions conçu par différents éditeurs. Alors, il propose vraiment beaucoup de choses. Alors, je vais les citer très rapidement, mais alors des langues, de la bureautique, du multimédia, de la programmation, de la remise à niveau adulte. Tout ça avec des éditeurs extrêmement différents, hein, comme Edéform, MaxiCours et du Performance. Il propose du soutien scolaire. Du code et l'apprentissage du code et du permis, la vie professionnelle, le droit, l'orientation des métiers, le secourisme, le bien-être, la santé, l'art, la musique, le classique et le jazz. Donc là, on voit qu'on s'éloigne un peu, on y reviendra, et même du documentaire et du gaming. Donc c'est la ressource quand même qui compte le plus d'abonnés, de bibliothèques adhérentes au réseau Carrel, déclarés abonnés. On en compte sur le site Carrel 142. Et bien souvent, nous, on voit arriver aussi des éditeurs spécialisés hein, qui arrivent sur le marché des bibliothèques. Et ces éditeurs spécialisés, ils se situent sur une niche. On va prendre l'exemple, par exemple, de Global Exam. Hein. Global Exam, il propose une préparation en test de langue. Donc, ces éditeurs spécialisés, en fait, ils vont avoir des difficultés pour répondre aux demandes techniques des bibliothèques, c'est-à-dire s'interfacer avec les différents SIGB, mettre en place un SSO, développer une API de recherche fédérée, un module d'administrateur adapté, un module statistique adapté, etc. Et ils ne vont pas non plus forcément avoir la force commerciale pour aborder le marché des bibliothèques. Et en calculant un petit peu tous ces efforts, finalement, l'éditeur ne va pas vouloir déployer tant d'efforts pour finalement un marché sa solution, il ne va pas la vendre à un prix exorbitant puisque l'éditeur se situe sur une niche. Donc, on voit beaucoup d'éditeurs spécialisés qui préfèrent confier la commercialisation de leur offre à un acteur déjà très présent sur le marché des bibliothèques. Donc un acteur comme Tout Apprendre. Donc cela explique, par exemple, on en a rencontré plusieurs, hein, Global Exam, Tralalair, et bien souvent, ils confient la commercialisation à Tout Apprendre. Donc la particularité de Tout Apprendre, c'est bien diffuser et distribuer de façon exclusive, ça c'est leur particularité, une pluralité de producteurs de contenu. Alors, pour les bibliothèques, ça a quand même un avantage, hein, c'est-à-dire que la proposition, elle est complète. Le choix, il est très large. De plus, Tout Apprendre a essayé de s'adapter à l'ensemble des demandes des bibliothèques, hein, tant au niveau technique que tarifaire. Là, ils ont quand même un petit peu rationalisé leur modèle tarifaire parce que c'était devenu illisible tellement ils essayaient de répondre à différents cas de figure. Donc aujourd'hui, en fait, Tout Apprendre étant toujours son catalogue et il est quitte à s'éloigner même du cœur de son identité, en fait, hein, c'est-à-dire de quitter un petit peu l'auto-formation, puisqu'aujourd'hui, Tout Apprendre propose de la presse avec Mon Petit Quotidien et des documentaires comme Spicy. Donc en fait là on voit bien que Tout Apprendre aurait tendance à devenir une plateforme d'agrégateur de contenu au sens large, qu'on pourrait comparer à, par exemple, un CVS. Mais à la différence de CVS, Tout Apprendre diffuse et distribue en exclusivité, on l'a déjà dit, alors que CVS distribue, par exemple, Tout Apprendre, donc pas en exclusivité, même si CVS propose aussi en exclusivité des offres d'auto-formation, donc comme Tell Me More ou Rosetta Stone. Alors, on y reviendra, mais plus récemment, on vient d'apprendre que CVS a repris la commercialisation exclusive pour les bibliothèques de vos déclics. Et ils répondent aux appels d'offres pour Assimil. On voit bien qu'il y a une tendance comme ça à la montée d'acteurs prédominants. Donc, heureusement, pour plus de sérénité sur le marché, arrive en 2017 un outsider, Skileos. Donc ça, c'est plutôt sain. Hein. C'est plutôt sain parce que lorsqu'on a un monopole sur un marché, on sait bien que les bibliothèques ne sont pas gagnantes. Hein. Donc, puisqu'il y a un risque tarifaire, ensuite, quand on est dépendant d'un fournisseur, d'un unique fournisseur, il peut très bien augmenter ses prix et on voit bien là où est le danger pour les bibliothèques. Donc arrive Skileos, une jeune start-up qui a vraiment très bien étudié le marché avant de s'y introduire. Ils sont allés voir nombreuses bibliothèques, ils sont allés voir Carrel, ils ont recensé tous les besoins, ils ont construit leur offre vraiment pour répondre aux besoins des bibliothèques ou même aux demandes. Ils ont créé des modules à la demande des bibliothèques. Donc au niveau technique et tarifaire, ils ont fait quelque chose de très simple. Et à la différence de tout apprendre. En fait, eux, ils ont une certaine uniformité du format, c'est-à-dire qu'ils proposent des formations vidéo. Donc il y a une charte graphique bien reconnaissable, hein, avec une certaine unité du catalogue, donc, qui donne de la cohérence. Il y a toujours la présentation du cours, la présentation du professeur, un cours découpé en vidéo de 3 minutes, hein, et puis bon, ils ont essayé d'introduire un peu d'interactivité, c'est-à-dire que le cours vidéo peut être accompagné d'exercices ou de quiz. Alors, le point négatif de l'offre de Skileo, c'est bien sûr le manque d'interactivité. Il y a peu d'exercices, bon, un peu de quiz. Mais la ressource, elle n'a pas été conçue pour apprendre en pratiquant comme d'autres ressources, comme Eni Media Plus, par exemple. Alors, comme je vous le disais, c'est assez simple. Il propose un pack classique avec 9 catalogues, loisirs, code de la route, langue express, langue académique, sport, bien-être, développement personnel, art et musique, bureautique, multimédia, programmation, web marketing, vie professionnelle. Et alors, si vous avez de budget, vous pouvez prendre le pack premium, c'est-à-dire le pack classique, plus 7 autres catalogues, donc là qui ont été vraiment élaborés en collaboration avec les bibliothèques, jeunesse et soutien scolaire, FLE, informatique pour les débutants, langue des signes, recherche emploi, remise à niveau adulte et certification de test de langue. Alors, ensuite, on passe aux éditeurs spécialisés en langue, qu'on a été obligé de subdiviser en plusieurs chapitres, puisqu'ils sont nombreux au catalogue Réseau Carel. Donc, on a Assimil, le célèbre éditeur de langue, hein, créateur de la fameuse méthode Assimil, la méthode par assimilation. Donc, l'idée, c'est d'être baigné dans un bain linguistique et d'assimiler la langue et ensuite être amené petit à petit à produire soi-même des phrases dans la langue que l'on apprend. Donc, la richesse, en fait, de la méthode Assimil, bah, c'est qu'il y a un important panel de langues, hein, de l'anglais au suédois, en passant par l'occitan et le néerlandais. Donc, ça, c'est vraiment la force de la méthode. Une autre force aussi, c'est pour l'apprentissage du français, Assimil propose, en fait, différentes traductions, c'est-à-dire qu'il propose le français pour les hispanophones, pour les anglophones, pour les Italiens et les Russes. Voilà. Donc ça, c'est très utilisé. Alors, la fonctionnalité intéressante sur la plateforme numérique Assimil, c'est la possibilité de s'enregistrer. Si l'usager crée son compte, il peut aussi enregistrer sa progression. Après Assimil, le point négatif, c'est qu'Assimil est son propre concurrent, puisqu'ils éditent toujours les mêmes méthodes en livre CD. Alors, l'interface reste extrêmement classique et reprend vraiment à l'identique la version papier. Alors, cela peut aussi rassurer le lecteur, hein, qui est habitué à la méthode papier. Donc ensuite, un éditeur moins connu, Syllabi, anciennement Capturator. Donc, c'est une méthode qui permet d'apprendre l'italien, l'anglais, l'allemand, le français, l'arabe et l'espagnol. Alors, pour l'anglais, il y a un test de positionnement qui permet d'évaluer son niveau, et c'est une méthode assez interactive. Après, les points peut-être négatifs, c'est que l'ergonomie reste assez austère, et les exercices très scolaires, hein, plutôt portés sur l'apprentissage de la syntaxe et de la grammaire. Il y a eu peu d'évolution sur cette ressource, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de nouvelles langues ajoutées au catalogue. Donc les éditeurs spécialisés en langue qui traitent plutôt qui proposent un apprentissage de la langue à travers des documents authentiques ou de l'actualité. Donc nous pouvons citer Maiko. Donc Maiko, c'est une ressource qui à l'origine était dédiée à l'apprentissage du langlais. Le cœur de la méthode Maiko, c'était le journal. Hein. Il s'agissait de se familiariser avec des documents authentiques en anglais, donc souvent un article ou une vidéo. Et de cette vidéo, de cet article, découlent en fait des exercices de compréhension de grammaire. Et puis Maiko a essayé de répondre aussi aux demandes des bibliothécaires, c'est-à-dire que c'était une méthode plutôt pour les niveaux intermédiaires, voire avancés, hein, une méthode quand même assez difficile en anglais. Et donc ils ont développé, à la demande des bibliothèques, des modules plutôt pour les débutants. Donc ils ont commencé par les points culture, qui restent plutôt pour des niveaux A2, mais ensuite ils ont développé VATS Life, qui est destiné au niveau plutôt A1. Après, ils ont des outils très pratiques du type MyWord, c'est un petit assistant qui permet pour l'anglais professionnel d'écrire des courriers en anglais. Donc, ils proposent aussi un kit de survie. Alors, le défaut aussi de Myco, c'était que ça n'existe, ce n'était consacré qu'à une seule langue, donc ils ont développé Myco français. Donc, Myco français, c'est vraiment le copier-coller du Myco anglais en français. Et donc qui s'adressait quand même à des niveaux FLE intermédiaires avancés, hein, de la même façon. Et ils essayent de tirer Myco français pour qu'il soit utilisé, par exemple, pour des Français qui auraient des difficultés grammaticales, mais sur la grammaire de base. Bon, mais c'est quand même pour des anglophones qui auraient un niveau intermédiaire en français. Voilà. Ensuite, on a une méthode qui a été inscrite au catalogue il y a très longtemps. Entre-temps, Catrain Media. Hein. Entre-temps, elle a été rachetée par Altitia. Donc, je vais passer très vite sur cette méthode. En fait, l'idée, c'était aussi d'apprendre les différentes langues, donc l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol et le portugais, en utilisant des documents authentique, hein, avec des petits outils comme des dictionnaires ou des lexiques qui permettaient, ou des sous-titres qui permettaient de mieux comprendre ces documents. Et donc, Catrain Media a été rachetée par Altitia, qui est une solution beaucoup plus globale d'auto-formation en langue. Cependant, la ressource n'a pas encore été négociée, hein, et elle est en cours de négociation, donc elle n'a pas encore été évaluée par le groupe de travail auto-formation, et elle n'est pas encore validée non plus par le bureau ou le CA. Donc ensuite, on a Vocable. Donc Vocable est très connu du grand public, hein, surtout des bibliothèques, pour ses magazines et ses CD audio. Donc maintenant, Vocable existe sous forme de plateforme numérique dédiée à l'apprentissage. Alors toujours, je vous rappelle les langues de l'anglais, de l'espagnol, de l'allemand. Et la plateforme numérique a la particularité aussi de proposer des petits modules et des tests aussi pour les tests de langue, TOEIC, TOEFL, etc. Alors le plus par rapport à la version papier, c'est le karaoké. Hein. L'apprenant peut suivre en fait le texte se surligne au fur et à mesure de la lecture. Et la lecture est effectuée par une voix humaine, ce qui est plutôt agréable, hein, par rapport à une voix de synthèse. Donc, comme pour Assimil, hein, on dirait que Vocable numérique se concurrence lui-même par sa version papier. Alors ensuite, nous avons les éditeurs spécialisés en langue, et plus particulièrement en anglais. Donc, on a la méthode de Streamglish, qui est vraiment un éditeur spécialisé. Hein. Donc, Streamglish propose l'apprentissage de l'anglais par la vidéo. Ce source, c'est le journal de France 24 en anglais, et aussi des séries, des films. Streamglish propose aussi des exercices de mémorisation, des listes de vocabulaire, des petits modules d'anglais professionnel et un espace débutant, c'est-à-dire 70 leçons d'anglais de 5 minutes. La particularité vraiment le plus de cette méthode, c'est que Streamglish propose un sous-titrage par niveau, avec un niveau débutant, intermédiaire, avancé et expert. En fait, au fur et à mesure, lorsque vous regardez une série ou un film ou des documentaires, vous pouvez, au fur et à mesure de votre progression, vous commencez avec les débutants, tout est pratiquement traduit, intermédiaire, on vous enlève quelques mots, avancé, tout est en anglais, et expert, vous n'avez pratiquement plus de sous-titrage, uniquement pour les mots un petit peu difficiles. Donc, c'est vraiment le plus de cette méthode spécialisée. Après, ça reste une ressource spécialisée en anglais et le graphisme n'est pas très attrayant. Bon. Ensuite, une nouvelle entrée au catalogue, Simulang. Donc, Simulang, c'est un serious game, hein, qui propose une formation en anglais professionnel. Donc, un petit peu comme lorsque vous jouez aux Sims, hein, vous pouvez être dans 6 situations professionnelles, c'est-à-dire faire un point projet, déjeuner avec un client britannique, gérer la réclamation client, mener une réunion avec plusieurs intervenants, participer à une réunion par vidéoconférence ou accueillir un nouveau collaborateur anglophone. Donc c'est une méthode très adaptative, hein, très interactive. C'est plutôt conseillé pour les... par exemple, pour une personne qui aurait suivi un stage d'anglais et qui voudrait ne pas perdre ses acquis, continuer à pratiquer, ou avant un événement professionnel qui vous conduirait à utiliser l'anglais, vous pouvez réviser un petit peu avec simulant. Mais c'est vraiment très spécialisé, puisque c'est simulant propose en fait de la pratique de la conversation orale et la compréhension orale pour les niveaux avancés sur l'anglais professionnel. Donc c'est un petit peu les limites de la solution. Alors, la jeunesse. Donc les éditeurs de spécialisés en langue pour la jeunesse. Donc nous avons Qui dit langue ? Donc il est destiné aux enfants de 3 à 10 ans. Hein, c'est vraiment, alors Qui dit langue, c'est vraiment... Il propose en fait de découvrir de nombreuses langues. Hein. Vous pouvez découvrir le français, l'anglais, le chinois, l'arabe, l'espagnol, le portugais, les langues africaines. Donc l'idée, c'est de faire des petits jeux pour familiariser en fait les enfants avec la diversité des langues. Donc c'est assez ludique, interactif, très sympa à utiliser. Après, le contenu reste un petit peu limité et le graphisme et la technologie de la ressource pourraient être actualisés. Alors, Speaky Planet est plus spécialisé. Hein, c'est une ressource qui est destinée aux enfants de 7 à 12 ans et qui est spécialisée en anglais. Donc, c'est une ressource entre le jeu ludo-éducatif et le parascolaire, puisqu'il couvre quand même tous les items de la grande section CM2, hein, c'est-à-dire apprendre l'alphabet, les nombres, les couleurs, les présentations... tout ce que les enfants apprennent à l'école en primaire. Donc c'est vraiment à destination des parents qui veulent aider leurs enfants en anglais. Bon, ça reste très ludique et interactif. Il y a un dictionnaire interactif et visuel qui est accessible et bon, c'est quand même limité à l'anglais. Alors, ça y est, nous en avons fini avec les éditeurs de langue et nous pouvons passer aux éditeurs spécialisés sur les savoirs de base. Alors, au catalogue, on trouve JRIP. Donc JRIP, c'est une ressource qui initialement a été conçue pour les orthophonistes. Et auparavant, avant qu'ils refassent leur nouvelle plateforme, qu'ils pourront vous présenter cet après-midi, iJRIP était vraiment, enfin, la page d'accueil d'iJRIP était quand même très inaccessible. Hein. C'était vraiment à destination des orthophonistes qui proposaient tel ou tel module à leurs patients, hein, dyslexiques. Donc c'était, voyez, vous demandiez, enfin, pour les bibliothécaires, c'était un peu difficile parce qu'ils demandaient s'ils allaient faire de la remédiation cognitive ou plutôt du coach adulte, enfin c'est peut-être pas tout à fait évident. Donc là ils ont refait en fait leur interface pour s'adapter à la demande du grand public. Hein, maintenant on a bien un découpage par objectif. Donc que propose iJRIP ? iJRIP propose en fait des évaluations et la préparation aux savoirs de base, donc essentiellement le français et les mathématiques, des modules de FLE. Si vous êtes dans une démarche dans une politique d'inclusion numérique, sur iJRIP, vous trouverez des modules qui permettent de maîtriser les fondamentaux du numérique pour débuter avec un ordinateur. Les modules sont adaptés au public 10. iJRIP intègre aussi OrientaJob, on y reviendra puisque c'est une ressource de l'explorateur des métiers. Et au niveau professionnel, de la formation professionnelle, en fait, iJRIP propose aussi de la préparation au CLEA. Alors le CLEA, c'est le socle des savoirs de base définis par les acteurs de formation. Hein. C'est quelque chose qui est très, très bien défini. Il propose aussi une formation au code de la route. Et le public cible, c'est vraiment le public en difficulté, le public 10, décrocheur scolaire, public FLE et le public concerné par l'inclusion numérique. Alors, la bonne nouvelle aussi, c'est que JRIP intègre des modules de projet Voltaire. Alors, à la BPI, cette ressource fonctionne très bien avec le public en difficulté, que nous recevons le jeudi matin. En fait, nous le jeudi matin sont reçues en fait des associations du champ social qui viennent avec leurs bénéficiaires pour travailler sur les ressources d'auto-formation. Et cette ressource est très bien exploitée. Cependant, elle reste quand même difficile d'accès pour un public qui ne serait pas accompagné. On imagine peu quelqu'un tout seul chez soi qui utilise GIRIP. Il faut vraiment une médiation de la part du bibliothécaire. Ensuite, nous avons Orthodidacte, qui est véritablement spécialisé sur l'orthographe en français. Alors, Orthodidacte, c'est une ressource très complète, hein, qui propose un parcours personnalisé. Alors, vous faites un test qui dure quand même assez longtemps, peut-être un peu trop longtemps. Et ensuite, la solution vous propose des modules pour travailler telle ou telle difficulté que vous avez en orthographe. Après, vous avez des explications avec un vocabulaire très scolaire, vous voyez, vous avez un petit peu l'impression que vous retournez en sixième. Et donc, c'est extrêmement complet. Les cours sont interactifs, il y a des mi-cours, il y a des explications pour chaque section. Mais vous avez un bilan aussi précis de votre progression, de ce que vous avez fait, de ce qui reste à faire. Cependant, pour un public en difficulté, là aussi, c'est peut-être un peu trop difficile. Le vocabulaire est assez complexe et c'est un parcours extrêmement cadrant, extrêmement contraint. Et ça reste spécialisé en orthographe. Alors... Ensuite, nous avons les éditeurs spécialisés en bureautique, informatique et culture numérique. Alors, ENI propose deux offres, le Media Plus e-learning. Donc, Media Plus e-learning, c'est une solution d'auto-formation hein, en bureautique, en infographie, PAO, réseaux sociaux et culture digitale en général. Alors, la particularité, c'est quand même la qualité des contenus proposés par les ressources ENI. Et vous pouvez aussi... pratiquer les logiciels, c'est-à-dire vous pouvez utiliser Excel et la solution s'adapte et vous propose des modules de formation pour vous perfectionner sur Excel. Mais vous pouvez faire vos tableaux avec ENI. Hein. C'est vraiment, on peut pratiquer librement dans les logiciels. Après, la procédure de création de compte reste assez compliquée. ENI propose également Eureka. Donc Eureka, c'est une bibliothèque de livres numériques associée à des vidéos d'auto-formation, donc plutôt spécialisée en bureautique, web, graphisme, CAO, DAO, gestion, droit, entreprise. C'est une bibliothèque de qualité, mais qui reste spécialisée, même peut-être très spécialisée, hein, et ça manque un petit peu d'interactivité. Alors, vos déclics, qui est désormais commercialisé par CVS en exclusivité. Donc, vous connaissez peut-être, c'est une plateforme de formation vidéo qui propose donc, très simple à utiliser, hein, des formations en bureautique, outils logiciels, applis. Donc, typiquement, vous avez une personne qui ne sait pas très bien se servir de sa nouvelle tablette et ces formations très simples à utiliser sont adaptées aux débutants en informatique. Il y a une grande diversité du catalogue. Après, ça reste des formations vidéo, donc ça manque d'interactivité. Alors, les éditeurs spécialisés en formation professionnelle et orientation professionnelle. Donc, on l'a vu avec IGRIP, l'explorateur des métiers. C'est rigolo, les explorateurs des métiers, ils sont intégrés sur GIRIP, ils sont aussi sur Tout Apprendre et ils sont commercialisés aussi de façon indépendante. Donc, ils proposent de découvrir des métiers en fait sur des petites vidéos de 2 minutes 30. Hein, ils couvrent 52 secteurs d'activité, 400 métiers. Et donc il y a un test aussi, il propose un test d'intérêt et de compétences qui vous conduisent en fait à une proposition de métier. Bon, c'est pas toujours extrêmement pertinent, mais ça peut être une aide à la réflexion et à la découverte des métiers. Le public visé, c'est plutôt les jeunes en phase d'orientation professionnelle. Et la limite de la ressource, c'est pas vraiment une ressource d'auto-formation. Hein. On l'a classée en auto-formation parce qu'elle était intégrée à GIRIP et à tout apprendre, mais en vérité, on ne peut pas véritablement se former dans un domaine particulier. Nous avons une autre ressource qui est Formatech, anciennement lesocial.fr. Donc Formatech, c'est une plateforme qui propose des préparations au concours des carrières sociales et santé. Donc les concours visés, c'est éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, moniteur, éducateur, accompagnement éducatif, assistant de services sociaux, infirmier, technicien d'intervention sanitaire et sociale. Bon, c'est très spécialisé, hein, y a beaucoup de textes et c'est pas très ergonomique. Alors voilà un petit panorama très rapidement brossé. Vous pouvez bien sûr voir plus en détail les offres avec les fournisseurs cet après-midi. Et surtout, je vous remercie de votre attention et je vais vous demander, et vous, vraiment au cours de cette journée, faites-nous part de vos négociations, de vos découvertes, de vos coups de gueule. Partagez votre expérience avec tout le réseau en commentant directement sur le site. Vraiment, l'idée, c'est de faire circuler l'information au sein du réseau. Je peux relayer auprès des groupes de travail, auprès du conseil d'administration. Donc, vous avez mon adresse. Et n'hésitez pas à nous faire part aussi de l'évaluation des ressources en commentant. Vous pouvez suggérer de nouvelles ressources à négocier. Et donc, la parole est à vous. Je vous en prie. Merci.
Pardon, ah oui, j'ai un micro. Oui. Merci à Emmanuel pour son intervention. Merci de prendre la parole tout de suite, comme ça rebondit, c'est effectivement interactif tout de suite. Mais il y a un micro qui va circuler dans la salle. Et donc, n'hésitez pas, on a un petit peu de temps pour échanger avec...
Bien, merci. Est-ce que tout le monde a entendu ma question ?
Oui. Oui, alors effectivement, alors, le périmètre de Carel, ce sont les ressources onéreuses. Donc après, effectivement, on voit bien, ça revient toujours dans nos discussions, qu'il y a un certain nombre de ressources gratuites extrêmement intéressantes et qui peuvent être utilisées par les bibliothèques. Mais du coup, ça ne fera pas l'objet d'une négociation au sein de Réseau Carel. Mais effectivement, il y a quelque chose à faire sur les ressources gratuites en général, les ressources numériques gratuites.
Alors, je peux peut-être prendre le relais pour cette réponse-là. Dans le groupe de travail auto-formation, nous en avons discuté, nous nous sommes posé la question et nous avons pour objectif de travailler sur une sélection de ressources libres qui seraient complémentaires et qui seront complémentaires d'une offre de cette offre payante qui est par ailleurs extrêmement structurante. Cette offre payante. Mais pour cela, il faut du temps à nous tous individuellement dans les bibliothèques et puis du temps au groupe de travail auto-formation. Donc nous espérons aussi que cette journée donnera envie à des collègues de collaborer, de travailler ensemble et de participer à ce travail. On a même posé la question, ça fait plusieurs fois qu'en CA Carel, on se pose la question de mettre sur le portail de Carel une page ou un espace qui permette de présenter ces ressources libres ou gratuites. N'hésitez pas, Emmanuel a... vraiment, vraiment beaucoup de connaissances, donc profitez de sa présence. Excusez-moi,
il y a une question là,
et puis après...
Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais juste savoir, en fait, sur certains types d'offres globales, comme Skileos, on voit tout ce qui a trait aux loisirs, la formation personnelle, on voit quand même des choses un peu bizarres passer, parce qu'il n'y a pas forcément, on va dire, derrière des professeurs agréés ou des choses comme ça. Est-ce que au niveau des propositions, enfin des entreprises qui vous proposent ça, il y a une forme de, je sais pas, de contrôle ou de une promesse, un engagement comme quoi c'est pas quelque chose d'un petit peu bizarre derrière?
Alors, si vous voyez des choses bizarres, n'hésitez pas à le faire savoir, à le commenter, et ça nous permettra de faire pression auprès des éditeurs. Puisque bien souvent, nos commentaires, en fait, rejoignent leur retour client, mais si ce n'est pas exprimé clairement, vous voyez, ça n'existe pas. Donc, n'hésitez pas vraiment à faire remonter, à dire, bon, ben voilà, ce module-là, je ne sais pas, il me paraît pas tout à fait, le professeur ne me paraît pas tout à fait légitime, c'est un petit peu bizarre ce qui est dit. C'est vrai que pour avoir regardé des vidéos Skileos, hein, parfois c'est un petit peu filmé comme ça, dans le salon du formateur. Donc, n'hésitez pas à faire remonter vos appréciations sur la qualité du catalogue.
Est-ce que c'est possible de prendre le micro? Oui, c'est bien pour tout le monde.
Il faut absolument parler dans le micro, sinon à l'enregistrement, on vous entendra pas.
Oui.
Donc, je vais redire ce que j'ai dit dans le micro, que nous sommes en train de travailler à une nouvelle version du site qui mettra davantage en avant les commentaires et remarques de tous les bibliothécaires, et c'est vraiment aussi... La participation des bibliothécaires est extrêmement importante au niveau de l'association pour justement pouvoir échanger sur ces choses-là, sachant d'une part qu'on ne peut pas tout analyser, d'autre part que c'est parfois difficile de juger de l'entrée ou non d'une ressource sur le seul critère de la qualité des contenus, parce que la dimension subjective quand même elle est là, et donc on a pour partie généralement de préférer les prendre, c'est-à-dire il y a des conditions qui, parfois tarifaires, d'accès ou autres, qui font qu'on ne va pas prendre une ressource. Sur la qualité des contenus, c'est un peu plus compliqué, parce que sur Skileos, on peut aussi avoir des choses qui passent et qui pourraient intéresser les bibliothèques. Voilà, donc l'échange, les commentaires, c'est super important pour nous.
Aussi ajouter que par rapport au moment où on l'évalue, la ressource peut évoluer. Donc on n'a pas forcément eu un regard et une analyse sur des contenus qui pourraient poser problème ou qui sont pas dans la même ligne éditoriale. Donc c'est d'autant plus intéressant cet aspect collaboratif, c'est de profiter de l'intelligence collective pour avoir des retours.
Excusez-moi, est-ce qu'il est possible que chaque collègue se présente avec la bibliothèque, sa bibliothèque d'origine?
Bonjour.
Bonjour.
Anne Deleuze, bibliothèque de Voreppe, dans le Pays Voironnais, en Isère. La question, c'est justement, je rebondis sur ce que vous avez dit, est-ce que vous pourriez donner quelques critères pour votre évaluation?
Alors, ça va justement être abordé dans l'intervention suivante, l'intervention de Marianne et d'Hélène qui va suivre.
Parfait.
D'autres questions?
Oui, Guillaume de la Taille, Paris. Souvent, le problème, c'est le problème des agrégateurs. Et les agrégateurs, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils ramassent tout ce qu'ils trouvent dans leur NAS en raclant le fond de la mer. Et quelquefois, ils ramassent des choses bonnes, des choses moins bonnes. Et il y a vraiment des différences extrêmes. Et c'est vrai qu'il y a des modules qui ne devraient pas être dans ces choses-là. Ça n'a rien de choquant. C'est simplement ou bébête, ou mal présenté, ou un peu à côté de la cible, etc. etc. Et donc ça, c'est difficile. Et il faut quand même expliquer à ces agrégateurs qu'il ne faut pas qu'ils descendent trop bas. Donc il nous faut des armes, il faut des informations, parce que prenez toutapprendre.com ou Skileos, c'est des heures et des heures. Moi, j'en fais très peu par rapport à ce qu'il faudrait faire pour faire ça. Donc il faut des informations et nous signaler ce qui vraiment est trop mauvais et qu'ils mettent là simplement pour gonfler leur catalogue.